Un sol majeur.
Un sol majeur.
Des parents vietnamiens, une enfance parisienne, une adolescence pleine de cheveux longs, avec dans la chambre des drôles de copains, des drôles d'odeurs et du Deep Purple. Je romance peut-être un peu, mais pas tant que ça.
Il y a une drôle d'odeur, non, il n'y avait pas des drôles d'odeur.
Voilà Nguyen Le, prix Django d'or de la guitare en 2006, présenté comme l'enfant du rock post-hendrixien, et qui a donc dans son ADN un jazz qui fusionne joyeusement et forcément quelques réminiscences proustiennes. Mère-fils étrange, lorsque les origines se mixent, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors, déjà, c'est amusant parce qu'en fait, ce morceau, c'est sur un disque d'Ultramarine. Ultramarine, donc, qui est connu comme un disque de, comme un groupe de fusion plutôt jazz africain antillais. Et puis, je cherchais à avoir mon petit coin personnel. Et donc, j'ai fait ce morceau, donc, qui s'appelle Vent d'automne. Et donc, comme je disais, qui me marque parce que à cause de ma mère qui me le chantait comme une berceuse, et donc naturellement j'ai voulu demander à ma mère de réciter le texte de la berceuse.
Donc c'est la voix de votre mère qu'on vient d'entendre, voilà. Et que vous avez que vous êtes réapproprié de façon
orchestré.
Jazz. C'était quoi l'idée alors?
Ben donc il y a le texte, mais qui est juste parlé, et puis il y a la mélodie qui est que j'ai réarrangé et orchestré comme d'habitude, je dirais maintenant, puisque je fais ça presque tout le temps maintenant.
Pourquoi ce désir d'intégrer dans votre jazz un chant traditionnel vietnamien?
C'est une longue histoire, mais disons que je pense que à partir du moment où un artiste se prétend artiste, il se doit d'avoir une identité. Si on fait de l'art, c'est pour faire quelque chose d'unique et de fort, et quelque chose qui ne se répète pas, quelque chose qui n'est pas comme l'autre. Et donc, la manière la plus naturelle de créer cette identité, il faut bien voir que ça reste une identité dynamique, c'est-à-dire une identité qui évolue avec le temps. La meilleure manière de créer cette identité, c'est de revenir à ses racines, puisque c'est nos racines qui nous ont fabriqués tels qu'on est maintenant.
Donc, votre identité jazz, pour parler sur le plan du plan artistique, n'était pas complète à vos yeux. Il vous manquait quelque chose.
Voilà. Et donc, ce morceau est intéressant parce que aussi dans le contexte d'Ultramarine, puisque Ultramarine, pour moi, c'est un groupe qui m'a énormément apporté, et en même temps, je dirais que je n'avais pas l'identité que j'ai maintenant, et en tout cas surtout par rapport au Vietnam. J'étais encore en train de chercher qu'est-ce que pouvait être une identité musicale vietnamienne.
Un Vietnam que vous avez découvert tardivement, je crois, à 20 ans.
Oui, donc comme je disais, c'est, quand j'étais petit, ça ne m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas, la musique m'intéressait pas, la culture m'intéressait pas, ça m'intéressait même pas d'être avec des amis, des jeunes amis vietnamiens. C'est venu beaucoup plus tard, et je dirais que c'est venu grâce à la musique, en fait, tout simplement.
Non.
Puisque, et justement, par rapport à cette quête d'identité.
Donc le crossover, il s'appelle Tales from Vietnam. C'est cet album qu'on va écouter avec The Black Horse. Vous nous le présentez. C'est vraiment le moment où vous basculez, là.
Absolument. C'était donc en 80. Ça commençait en 95. Au départ, c'est venu un petit peu par hasard parce que j'ai une proposition de Radio France, d'ailleurs, de faire le projet que je voulais. Et ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose autour du Vietnam, mais j'ai pris cette occasion, et j'ai donc créé cet orchestre qui est devenu un disque aussi, dont l'idée était de réunir des musiciens traditionnels vietnamiens et des musiciens de jazz moderne autour d'un répertoire qui serait basé sur des mélodies traditionnelles vietnamiennes que j'aurais réarrangées de manière moderne.
Ça a été le choc, ça, non? Cette rencontre avec des musiciens traditionnels vietnamiens?
Oui, parce que justement, avant, j'étais dans une espèce d'abstraction, de rapport abstrait avec le Vietnam. Et le fait de travailler pour la première fois avec des vrais musiciens vivants, avec lesquels on peut converser, vraiment travailler ensemble, dire... on sent vraiment, c'est un véritable dialogue, on sent vraiment ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et donc ça produit ce disque.
Nuit et nuit en sol majeur sur RFI. Black Horse Tales from Vietnam, lorsqu'il nous raconte des histoires du Vietnam, c'est Nguyen Le Nhi en sol majeur. Né en 59 à Paris, guitar hero discret, c'est avec un médiateur qu'il accorde son Vietnam et son jazz.
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle ?
Nguyen Le Nhi.
Oui, j'ai un rapport un peu compliqué avec la langue. C'est-à-dire que je crois que je parlais vietnamien quand j'étais tout petit. Et puis j'ai commencé à perdre la langue à partir du moment où j'étais à l'école. Et je fréquentais des amis français. Et donc, et maintenant, en fait, mes parents me parlent en vietnamien et je réponds en français. Et j'ai une compréhension totalement automatique du vietnamien. C'est-à-dire il n'y a pas d'effort de traduction. Donc il n'y a pas de médiation cérébrale. Il n'y a pas de A égale B. Et je crois que c'est à cause de ça que il n'y a pas d'effort de mémorisation. Par exemple, c'est à cause de ça que du coup je comprends immédiatement le mot et je l'oublie immédiatement.
Mais vous n'avez pas envie de vous y remettre pour faire
J'aimerais bien, mais...
pour rentrer dans la conversation.
si c'est sûr, mais c'est pas si facile que ça en fait. Surtout que
vous êtes papa ou pas?
Non.
Ah.
Mais surtout que j'ai un métier qui prend beaucoup de temps. Mais je me dis qu'un jour, il faudrait que je retourne au Vietnam. Je pense que le mieux, c'est de retourner au pays et d'y rester longtemps.
Vous diriez que vous avez un rapport cérébral au Vietnam?
Alors ça aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que comme je disais quand j'étais petit ça m'intéressait pas, et donc je dirais déjà, j'ai un rapport volontaire avec le Vietnam, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait un travail pour revenir et pour redécouvrir ses racines. Je pense qu'il y a toute une part il y a inévitablement une petite part d'atavique, mais en même temps, ça ne suffit pas. Il faut déterrer tous ces souvenirs, mais pas seulement les déterrer, il faut en prendre possession et il faut les actualiser, il faut en faire quelque chose avec ce qu'on est actuellement. Et donc c'est vraiment exactement ce que je fais, ce que j'essaie de faire avec la musique.
Donc il y a la musique, mais vous êtes aussi passé par les arts plastiques et puis la philo.
Oui. C'est peut-être parce que, comme j'ai un peu copié mon père, je voulais collectionner les diplômes.
Vous avez travaillé sur la notion d'exotisme ?
Oui, donc j'ai fait de la philosophie jusqu'à la maîtrise. Et donc c'était une maîtrise sur l'exotisme.
Mm-hmm, c'est intéressant dans votre cas, je trouve.
On se demande pourquoi.
Oui, on se demande pourquoi. Et alors, diagnostic ?
Diagnostic. Alors il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais quand même déjà musicien. Mais je n'arrivais pas du tout à faire le lien entre la philosophie et la musique. Pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Et donc, c'était une thèse sur l'exotisme. C'était beaucoup influencé par la lecture de Victor Segalen. Et disons, je dirais que c'était une esthétique du rapport à l'autre. L'exotisme au sens de... C'est un petit peu comme l'amour, finalement, pour moi. C'est-à-dire que c'est un rapport à l'autre dans lequel il s'agit de se vider de soi pour pouvoir accueillir l'autre dans sa plénitude.
Mmh. Ça passe aussi par la case méditation, non ?
Ah, oui,
peut-être.
Oui, oui.
Ce souci de l'identité que vous êtes créé, hein, comme beaucoup d'enfants de seconde génération comme ça, qui ont vécu l'assimilation, hein, c'est le cas de vos parents, est-ce qu'on peut le comprendre à la lumière de votre pédagogie ? Vous m'avez expliqué quelque chose de très intéressant quand on s'est parlé avant l'émission sur qu'est-ce que l'identité ?
C'était sur les histoires des touches noires, là, c'est ça ? Uh-huh. Oui, mais ça c'est aussi parce que, comme je disais, avant ce que j'appelle ma maturité identitaire, j'avais un rapport très abstrait et intello. Je disais volontairement intello et pas intellectuel.
Péjoratif.
un petit peu. Avec l'Asie. C'est-à-dire qu'en fait, j'essayais de trouver une identité. Je cherchais... Comment peut-on sonner asiatique tout en ne recourant pas à des procédés faciles ? Parce que et c'est là où j'en viens aux histoires des touches noires, c'est-à-dire que sur un piano vous avez les touches noires et les touches blanches. Si vous jouez que sur les touches noires, vous allez sonner tout de suite chinois. il faut peut-être que je fasse un exemple.
Ah oui, vous avez votre guitare là. Avec les guitares gendres sur les genoux.
Un petit exemple de sonnet chinois.
Regardez sur votre Facebook, on dépose en ce moment une vidéo.
Sauf que je joue de la guitare là, mais c'est pareil. Je le fais mal parce que je n'arrive pas à mal jouer de la guitare. Il faudrait que je joue... plus mal de la guitare. Mais disons que l'idée, c'est que... Donc, à l'époque, je cherchais une espèce d'essence asiatique du son. D'ailleurs, que j'ai... Je ne sais pas si je l'ai trouvé. Mais l'étape importante qui m'a fait sortir de cette intellectualité, c'est que... C'est justement, comme je disais, d'avoir un rapport totalement pratique et hyper réel à la musique vietnamienne, qui était que j'ai travaillé sur plein de mélodies traditionnelles que j'ai relevées, et ensuite de travailler avec des vrais musiciens, comme on dit live, des vrais musiciens traditionnels. Et là, on comprend qu'est-ce que c'est la.
On peut dire que vous vietnamisez votre jazz. Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Moi, je dis que je j'ethnise aussi la guitare électrique.
Vous nous faites un coup d'ethnique, là?
Voilà. Et ce que je voudrais montrer, c'est que, à la différence de jouer juste sur les touches noires, c'est que toute la vie de toute cette essence possible de l'Asie dans la musique, elle se passe pas seulement au niveau des notes. Juste au niveau des notes, mais aussi au niveau des inflexions, des ornements, des vibratos. Il y a toute une vie très complexe et très détaillée et très fine et très subtile qui est, et c'est là que ça se passe en fait.
Est-ce que Nuit et Nuit en improvisation, ça se passe sur un sol majeur live? Oui. En sol majeur live, est-ce que les rizières du Vietnam ont croisé les plaines du Colorado?
Si vous voulez.
Musicien de nulle part, musicien universel si vous préférez, franco-vietnamien si vous tenez à passer à table avec lui.
Vos parents viennent dîner à la maison. Que leur cuisinez-vous?
Tout à l'heure, tu as parlé de porc au caramel. En fait, c'est une très bonne idée puisque c'est un de mes plats absolument préférés. J'adore ça.
Je t'adore quand tu me dis tu.
Et c'est un plat en plus qu'on ne trouve pas dans tous les restaurants vietnamiens, dont il faut aller chercher les restaurants en route, comme on dit. Quand j'étais jeune, j'avais une réputation d'être un très grand cuisinier. À l'époque d'Ultramarine, par exemple, on organisait des fêtes avec des grands repas.
Vous laissez dire les potes africains, hein, les convertir, peut-être.
Oui, ils adoraient ça. Et puis après, j'avoue que j'ai eu moins de temps. Et puis aussi, une chose qui s'est passée, c'est que ma femme, Dominique, a appris la cuisine vietnamienne. Je lui ai montré quelques plans, comme on dit, et elle a appris la cuisine vietnamienne, et je dirais que maintenant, elle la fait mieux que moi.
C'est machiavélique, ça, je le sens bien. Est-ce que vous, l'amoureux des concepts, Nuit et Nuit, vous allez nous servir à table le concept de la cuisine vietnamienne? Parce qu'il y en a un.
C'est intéressant, ça, pour moi, il y a complètement un concept. C'est-à-dire que il y a une manière, par exemple, il y a une manière d'accommoder les restes. Qui peut donner des choses complètement vietnamiennes. Par exemple, on a des restes de poulet, et puis il suffit de couper ça en morceaux, de mettre un peu d'ail, d'oignon. Il y a un truc très important, c'est les herbes, donc coriandre fraîche. Et aussi une chose extrêmement importante, à part le riz bien sûr, c'est le nok mam. Le nok mam, c'est la sauce poisson qui est faite à partir d'anchois. et qui est vraiment centrale, qui donne un goût. Et maintenant, en fait, c'est devenu la sauce universelle. On en met partout, même dans des plats occidentaux, et ça marche très très bien. Même dans les pâtes, même dans un beefsteak avec des frites, ça va marcher.
Est-ce qu'on peut être jazz? Est-ce qu'on peut improviser la cuisine vietnamienne?
Oui, en fait, justement, à partir du moment où on comprend le concept. Je pense qu'on l'a pas bien compris,
hein. Je l'ai pas saisi moi le concept. C'est quoi exactement? Rapidement.
Je peux pas vous dire ça comme ça.
Mais
il y a l'idée de couper en morceaux. C'est toujours en petits morceaux. Il y a l'idée d'une cuisson des légumes très rapide. Donc ce qu'on appelle la cuisson au wok par exemple, donc avec un feu très fort et très vite, donc pour que les légumes soient croquants. Et là, au niveau des ingrédients, c'est pas une histoire d'épices, c'est beaucoup une histoire de sauce Nok Mam. Mais par exemple, c'est pas basé comme la cuisine indienne sur le curry. Il n'y a pas besoin de ça.
Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre maison?
Ma maison, j'ai la chance d'avoir un grand salon, surtout, dont j'ai occupé la moitié avec mon studio.
Donc, vous habitez à Barbès, hein, Nuelly. C'est pour ça qu'on vous appelle le sorcier de Barbès.
Voilà, et déjà, il faut dire que moi, j'adore Barbès, parce que c'est ce côté marché africain, c'est totalement génial.
En même temps, beaucoup plus que le Chinatown de Paris, par exemple. Vous êtes moins attiré.
Ah, j'aimerais bien être aussi à Chinatown, mais j'avoue que c'est plus exotique pour moi. Chacun a son exotisme. Et donc.
Il y a des marques identitaires dans cet appartement?
Oui, c'est aussi grâce à mon père qui me donne une partie de sa collection. Mon père, c'est un grand collectionneur d'art, en particulier asiatique, mais aussi d'art africain. Et donc, j'ai beaucoup de peintures chinoises et japonaises sur les murs et quelques sculptures des Bouddhas. Et aussi quelques masques africains.
Mm-hmm. Et puis quelques calligraphies, parce que oui. Vous parlez plus trop le vietnamien, mais vous parlez la calligraphie.
En fait, j'ai appris ça, parce que en fait, quand j'étais petit, j'étais pas musicien, mais j'étais dessinateur. Je passais ma journée à dessiner. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que mes parents étaient très étonnés quand je suis devenu musicien, parce qu'il y avait rien qui présageait ça. Ils croyaient que j'allais devenir dessinateur ou peintre. Donc j'ai appris aussi la peinture chinoise.
Et qu'est-ce que c'est que ce tableau là que je vois accroché dans votre salon et qui représente un tigre?
Il y a une peinture chinoise qui représente un tigre avec des yeux énormes et qui est genre il est presque prêt à bondir, et en même temps il a pas l'air méchant, je dirais. Il est très très puissant. Mais il est pas méchant, il a un regard fascinant.
Il représente quoi dans la culture ou la mythologie vietnamienne, ce tigre?
C'est pas que le danger, bien sûr il y a le danger, mais il y a aussi la force. Tout est ambivalent, comme on dit.
Et tout est dans la manière dont c'est nous qui le percevons.
Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait un disque. Un de mes disques, ça s'appelle Walking on the Tiger's Tail, ce qui veut dire donc marcher sur la queue de tigre. C'est aussi une expression d'un des paragraphes du Yi Qing, le grand livre de philosophie chinoise. Mais en fait, c'est un peu une longue histoire, mais disons que j'ai eu un moment dans ma vie où la santé, ça allait pas du tout. Et j'étais assez malade, et pour moi, ce tigre, il était un peu symbolisé dans la maladie a été symbolisée avec ce tigre.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Nuelly pour cette traversée musicale. Je rappelle que votre nouvel album Sayuki est sorti chez Act, et puis vous êtes en concert. Il y a plein de dates, il faut aller sur votre site. Je dirais simplement le 4 décembre à Enghien dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise, et puis vous êtes après-demain à Chambéry. On va se quitter avec une déflagration à la Hendrix, votre album Purple Celebrating Jimi Hendrix, pour dire qu'Hendrix vous a aidé quand même dans votre quête du Graal.
Oui, mais ça c'est mon côté. Il y a mon côté méditatif, Et puis j'ai aussi, je suis quand même un fils de Deep Purple, donc j'ai besoin de cette énergie et de cette électricité, et je me retrouve totalement dans Hendrix. Et j'adore aussi retrouver cette énergie en mettant mes amis dans le bain. Donc là, c'est Karim Ziad qui nous amène les Gnawa.
Merci Nguyen-Li.
Merci beaucoup.
Marc de l'Ouvrier, Bertrand Eclair, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain autour d'une âme afghane, celle de Barmak Akram, réalisateur de L'Enfant de Kaboul.